Chapitre 9. Anna accrocha la banale lanterne en fer blanc à un crochet devant la porte. Puis, elle invoqua son Han et le modela, faisant jaillir dans l'air une petite flamme qui vint danser dans sa paume ouverte. Dès qu'elle fut entrée dans la chambre, elle envoya ce messager du feu embraser la mèche d'une bougie posée sur la table. Lorsque la lumière eut jailli, la dame abbesse referma la porte. Cela faisait un moment qu'elle n'avait plus reçu de message dans son livre de voyage, et elle était impatiente de découvrir le nouveau. Les murs enduits de plâtre de la petite pièce n'étaient percés d'aucune fenêtre. Tout l'espace que le lit laissait libre était occupé par la table et la chaise qu'Anna avait insisté pour avoir. En plus d'être une chambre, ce lieu faisait un sanctuaire des plus convenables, un endroit où Anna pouvait être seule pour réfléchir, prier et consulter le livre de voyage. Un plateau de fromage garni de tranches de fruits attendait sur la table. Jensen l'avait probablement laissé là quand elle était sortie avec Tom pour aller contempler la lune. Si lourd que fût sur ses épaules le poids des ans, Anna avait toujours chaud au cœur lorsqu'elle voyait un couple d'amoureux. Ces deux-là croyaient dissimuler à merveille leurs sentiments et ils en étaient d'autant plus touchants car ils auraient tout aussi bien pu les crier sur tous les toits. Anna regrettait parfois de ne jamais avoir vécu une période pareille avec Nathan. Des moments volés au temps où ils auraient exploré sans pression ni arrière-pensée leur extravagante attirance mutuelle. Mais les dames abbesses n'étaient pas vraiment faites pour exprimer librement leurs sentiments. Anna se demanda soudain d'où elle tirait cette certitude. Lorsqu'elle était encore une novice, aucune formatrice ne lui avait jamais conseillé de porter un masque d'indifférence si elle devait un jour être nommée au poste suprême. Cacher ses sentiments? Certes, mais pas tous. Et surtout pas la désapprobation parce qu'une dame abbesse devait être capable, d'un seul regard, de flanquer la tremblotte à une sœur du tout venant. Où Anna avait-elle appris à faire ça? Elle n'en savait rien, mais c'était depuis toujours un de ses points forts. Le Créateur avait peut-être prévu de toute éternité qu'elle occuperait ses fonctions. Du coup, il l'avait peut-être dotée des qualités requises. Hélas, l'insensibilité semblait être du nombre. De plus, Anna ne s'était jamais autorisée à affronter en face ses sentiments pour Nathan. Lorsqu'elle régnait encore sur le palais des prophètes, aujourd'hui en ruine, et sur les sœurs de la lumière, le vieux prophète était son prisonnier. On pouvait recourir à des noms plus fleuris, mais ça revenait à ça, même s'il était parfois dur de voir les choses avec une telle lucidité. Depuis toujours, on tenait les prophètes pour des êtres dangereux, qui ne devaient surtout pas frayer avec les gens normaux. En enfermant Nathan dès son plus jeune âge, les sœurs l'avaient privé de son libre arbitre. Plus grave encore, elles l'avaient jugé coupable par nature, sans jamais lui laisser le loisir d'opter pour le bien ou le mal. Prononçant la sentence avant que le crime soit commis, elles avaient sur la conscience un déni de justice dont Anna avait été complice pendant la majeure partie de sa vie. Ce comportement irrationnel et archaïque n'était pas à la gloire des sœurs de la lumière, et encore moins de leur dame abbesse qui en avait parfois des sueurs froides rétrospectives. Maintenant que Nathan et elle étaient vieux et qu'ils vivaient ensemble, si improbable qu'une chose pareille eût pu sembler par le passé, on ne pouvait plus vraiment parler d'extravagante attirance mutuelle. Pendant des siècles, Anna avait dû supporter les fantaisies souvent douteuses de Nathan. Transformée en garde-chiourme, elle s'était assurée qu'il ne se libère jamais de son collier et soit confiné à chaque instant dans une cellule du palais des prophètes. Victime d'un traitement inique, le prisonnier avait développé un caractère odieux qui n'avait rien fait pour le rendre populaire auprès des sœurs. La dureté de ses geôlières l'incitant à se montrer de moins en moins coopératif, l'affaire aurait pu durer 1000 ans de plus sans que rien ne change. Malgré tous les ennuis qu'elle lui devait, car sur ce point l'inventivité de Nathan n'avait pas de limite, Anna avait toujours regardé le prophète avec un sourire intérieur. Parfois, il était comme un gosse, mais un gosse âgé de 10 siècles, maître en sorcellerie et capable d'interpréter les prophéties. Si certaines prédictions venaient à être divulguées aux masses insuffisamment éduquées, les risques d'émeutes ou de guerres seraient multipliés par 100. C'était du moins ce que les sœurs de la lumière redoutaient depuis des lustres. Oubliant sa faim, Anna poussa le plateau qui pourrait attendre qu'elle ait fini sa lecture. Avoir des nouvelles de Verna lui faisait battre plus fort le cœur. Elle s'assit, sortit le petit livre à la couverture noire et le feuilleta jusqu'à ce qu'elle reconnaisse l'écriture si familière. Gênée par le peu de lumière, elle plissa les yeux puis rapprocha la bougie.
« Ma chère Anna, j'espère que vous allez bien et qu'il en va de même pour le prophète. Même si vous affirmez que Nathan est un atout précieux pour notre cause, je m'inquiète toujours de vous savoir aux côtés d'un tel homme. Je prie pour qu'il n'ait pas changé d'avis depuis votre dernier message. Cela dit, je l'avoue, il m'est difficile de l'imaginer compréhensif et docile sans un collier autour du cou. Je sais que vous êtes prudente, mais je n'ai jamais vu Nathan faire montre d'une totale sincérité, surtout quand il est agréable. »
Anna eut un petit sourire. Elle comprenait très bien les inquiétudes de Verna, mais elle connaissait Nathan sous un jour que la nouvelle dame abbesse ignorait. Ce vieux gamin pouvait se fourrer dans d'incroyables ennuis, c'était vrai. Pourtant, malgré tous ses défauts, il avait plus de points communs avec Anna que quiconque d'autre. La dame abbesse soupira et reprit sa lecture.
Empêcher Jagang d'envahir Dara n'a pas été un jeu d'enfant, mais nous avons réussi à lui barrer l'accès des cols de montagne. Un grand succès, peut-être même trop grand. Si vous êtes là, Dame Abbesse, je vous implore de me répondre.
Anna plissa le front. Quand on évitait une invasion, sauvant ainsi la vie à des milliers de soldats et de civils de son camp, comment pouvait-il s'agir d'un trop grand succès? La vieille dame approcha encore un peu la bougie. Pour être honnête, elle avait hâte de savoir ce que mijotait Jagang, maintenant que le printemps était assez avancé pour qu'on puisse recommencer à se battre. Celui qui marche dans les rêves était un ennemi patient. Venant du sud où s'étendait l'ancien monde, ses soldats n'avaient pas l'habitude des rudes hivers du nouveau monde. Des milliers d'hommes étaient morts de froid et des milliers d'autres avaient succombé à une des maladies qui se répandaient à toute vitesse dans le campement de l'ordre. En dépit de pertes pléthoriques, l'armée de Jagang grossissait sans cesse parce qu'elle recevait en permanence des renforts. L'effort de guerre de l'ancien monde devait être colossal et c'était sans doute pour ça qu'il menaçait, hélas, de porter ses fruits. Bien qu'il eût l'avantage numérique, Jagang ne s'était pas engagé dans une campagne hivernale. S'il se fichait du sort de ses soldats, il tenait à la victoire et ne négligeait pas l'importance des données climatiques. L'empereur ne prenait jamais de risques inutiles. Lentement mais inexorablement, il broyait ses adversaires dans son poing d'acier. À ses yeux, les années ne comptaient pas à condition qu'ils finissent par régner sur le nouveau monde. Partageant la philosophie de la confrérie de l'ordre, l'empereur n'accordait aucune importance aux individus, sauf quand il s'agissait pour eux de contribuer à l'œuvre glorieuse et salvatrice de l'ordre impérial. Avec autant de forces ennemies déjà passées dans le nouveau monde, les forces de l'Empire d'Aran étaient désormais à la merci des décisions tactiques de Jagang. L'armée d'Aran était extraordinaire, sans aucun doute, mais elle ne comptait pas assez de combattants pour espérer repousser un assaut massif. Et il en serait ainsi tant que Richard n'aurait pas trouvé un moyen de rétablir l'équilibre des forces. Selon une prophétie, Richard était « le caillou dans la mare ». Cette métaphore signifiait probablement que les ondes qu'il créait dans le monde influençaient tout ce qui se trouvait autour de lui. De très nombreux textes affirmaient qu'il devait conduire les forces du Nouveau Monde à la bataille, sinon le désastre serait assuré. Sur ce point, et pour une fois, les prédictions étaient claires comme de l'eau de roche. Anna tira une plume spéciale de la couverture de son livre de voyage, le jumeau de celui de Verna, et se mit à écrire.
« Je suis là, mon ami. Mais n'oublie pas que tu es la dame abbesse maintenant. Nathan et moi sommes morts et carbonisés depuis très longtemps. »
Grâce à la mise en scène de leur fin, les deux vieillards avaient sauvé des milliers de vies. De temps en temps, Anna regrettait l'époque où elle veillait sur son groupe de sœurs de la lumière. Elle avait sincèrement aimé un grand nombre de ces femmes, en tout cas celles qui n'avaient pas fini par intégrer les rangs des sœurs de l'obscurité. Qu'on puisse ainsi trahir le Créateur avait brisé le cœur d'Anna. Nostalgie ou pas, une fois libérée de ses écrasantes responsabilités, elle avait pu s'occuper d'affaires beaucoup plus importantes et urgentes. Même si elle regrettait son ancien poste et la douceur de la vie au palais, sa véritable vocation n'était pas de veiller sur des murs, des novices, des sœurs et des jeunes sorciers en formation. Sa mission consistait à défendre le monde des vivants. Pour qu'elle l'accomplisse au mieux, il était préférable que les sœurs de la lumière la croient morte, et il en allait de même pour Nathan. La dame abbesse plissa davantage les yeux quand l'écriture de Verna apparut sur une page blanche.
« Anna, je suis tellement réconfortée de vous avoir de nouveau près de moi, même par l'intermédiaire d'un livre de voyage. Il reste si peu d'entre nous. Vous l'avouerai-je, parfois je regrette les jours heureux au palais en des temps où tout semblait plus facile. Vous souvenez-vous de cette époque où chaque chose avait un sens? Comme je me compliquais la vie pour rien en ces années-là. Mais le monde a tant changé depuis la naissance de Richard. »
Anna n'aurait sûrement pas pu dire le contraire. Après avoir pris un bout de fromage, elle saisit sa plume et écrivit.
« Je prie chaque jour pour que la paix et le calme reviennent en ce monde, comme nous étions heureux lorsque nous avions surtout à nous plaindre du mauvais temps. Mais, Verna, je suis perplexe. Que voulais-tu dire par « peut-être même trop grand » S'il te plaît, explique-moi. J'attends ta réponse. »
Anna s'adossa à sa chaise et mangea une tranche de poire pour passer le temps. Les deux livres étant jumeaux, tout ce qu'elle venait d'écrire était apparu au même moment dans celui de Verna. Presque tous les artefacts du palais des prophètes avaient été détruits. Heureusement, il restait quelques précieuses reliques. La réponse de Verna apparut enfin.
« Nos éclaireurs annoncent que Jagang s'est remis en mouvement. N'ayant pas pu franchir l'école, il a divisé ses forces et il a pris la tête d'une armée qui se dirige vers le sud. C'était une des craintes du général Meffert. » La stratégie de l'empereur n'est pas très difficile à deviner. Sans aucun doute, il veut traverser la vallée de Kern, puis contourner les montagnes. Ensuite, il entrera en Dara par le sud et se dirigera vers le nord pour nous prendre en tenaille. Pour nous, c'est une catastrophe. Puisque Jagang a laissé des forces ici, partir reviendrait à leur abandonner l'école. Rester, c'est attendre qu'on nous poignarde dans le dos. La seule solution est de nous diviser aussi. Une partie de notre armée gardera l'école, tandis que l'autre tentera d'enrayer la progression de Jagang. Le palais du peuple se dresse sur le chemin qu'il empruntera, et il rêve sûrement de le conquérir. Chère Anna, je n'ai pas beaucoup de temps. Ici, c'est la panique. Nous venons d'apprendre que l'empereur fait mouvement vers le sud, et nous nous hâtons de lever le camp, enfin, partiellement. Je vais également devoir diviser les sœurs de la lumière. Hélas, il en reste si peu. Parfois, je me demande si nous ne faisons pas, avec l'ordre impérial, un concours d'extermination de sœurs. Anna, j'ai peur de ce qui arrivera à tant de braves gens si nous ne survivons pas. Sans cette inquiétude, je me réjouirais à l'idée de quitter ce monde pour aller rejoindre Warren, dans celui des esprits. Le général Meffert dit que nous devons partir dès l'aube. Je ne fermerai pas l'œil de la nuit car je dois inspecter les boucliers défensifs, puis m'occuper de la division de nos forces magiques. La vitesse d'exécution est un point clé si nous ne voulons pas être pris au piège. Avez-vous des choses urgentes à me dire? Sinon, je crains de devoir vous laisser. »
Anna se sentit de plus en plus oppressée au fil de sa lecture. Ce n'était pas de bonnes nouvelles. Elle répondit très vite pour faciliter les choses à Verna.
« Je n'ai rien de particulièrement urgent. N'oublie jamais que tu es en permanence dans mon cœur. »
La réponse fut quasiment immédiate.
« Les cols sont étroits. C'est pour ça qu'il a été relativement facile de les défendre. Ici, la supériorité numérique de l'ordre est neutralisée. Ces passages tiendront encore longtemps. Jagang est furieux de n'avoir pas pu traverser. Il doit aussi détester l'idée de faire un détour, mais il n'a pas le choix. » La force qui transitera par le sud étant le plus grand danger, je partirai avec le gros de notre armée. Priez pour nous, Anna. Tôt ou tard, nous devrons affronter Jagang dans les plaines, où il pourra faire jouer son avantage numérique. Si rien ne change, je doute que nous ayons une chance de survivre à cette bataille. Espérons que Richard accomplisse les prophéties avant qu'il soit trop tard.
Anna répondit sans tarder.
« Je jure de faire tout mon possible pour qu'il en soit ainsi. Sois assuré que Nathan et moi nous consacrerons entièrement à cette tâche. Tu es la mieux placée pour savoir que je travaille en ce sens depuis plus de 500 ans. Je n'abandonnerai jamais, sois-en certaine. Si c'est en mon pouvoir, Richard agira comme il le doit. Que le Créateur veille sur toi et sur tes compagnons. Je prierai pour vous chaque jour. Verna, ne cesse jamais de croire au Créateur. Comme tu es la dame abbesse désormais, communique cette foi à tous ceux qui t'entourent. » Quelques instants plus tard, quelques lignes apparurent encore. « Merci, Anna. Chaque soir, je consulterai mon livre de voyage pour voir si vous avez des nouvelles de Richard. Vous me manquez. J'espère que nous nous reverrons dans cette vie. » Anna pesa soigneusement son ultime réponse. « Moi aussi, mon enfant. Bon voyage. » Anna s'appuya sur les coudes et se massa les tempes. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mais il y avait quelques points positifs. Jagang n'avait pas réussi à passer en force. Du coup, il était condamné à une longue et épuisante marche. Au moins, les défenseurs avaient gagné du temps pour trouver des solutions. Richard se montrerait bientôt, et il saurait que faire. Les prophéties promettaient depuis toujours qu'il détiendrait les clés de la victoire. Le mal ne pouvait pas gagner. C'était impensable. Quelqu'un frappa soudain à la porte. Anna sursauta, inquiète que son Han ne l'ait pas averti qu'une personne approchait.
« Oui ?»«
Anna, c'est moi, Jensen. » Anna remit la plume en place et glissa le livre dans sa ceinture. Puis elle se leva, tira sur sa robe et prit une grande inspiration pour se calmer.
« Entre, ma chère, » dit-elle en ouvrant la porte à la sœur de Richard. « Merci pour le plateau. Tu veux grignoter avec moi ?»«
Non, merci. Anna, c'est Nathan qui m'envoie. » Il veut vous voir et il dit que c'est très urgent.
Vous savez comment il est, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà vu rouler de grands yeux quand une idée le travaille?
Oui, en général, c'est quand il prépare un mauvais tour.
Jensen parut un peu étonné.
Je me demande si vous n'avez pas raison. En tout cas, il m'a dit de vous ramener sur le champ.
Ce type aime que les gens crient quand il les pince,
soupira Anna.
Je te suis, mon enfant.
« Où est ce vieux Forban ?»
Dès que les deux femmes furent sorties, Jensen leva sa lanterne pour éclairer le chemin.
« Dans un cimetière ?»«
Un cimetière ? Et il veut que je le rejoigne ? Que fiche-t-il dans un endroit pareil ?»
Quand je lui ai posé la question, il a répondu qu'il déterrait les morts.